Bienvenue à Grow Funding Podcast, l'espace sonore où vous découvrirez les projets innovants et engagés qui sont en train de changer Bruxelles et qui sont en quête de financement. Mon nom, c'est Margarita Marin. Je suis coach de projet chez Grow Funding Bruxelles, la plateforme de crowdfunding civique bruxelloise. Pour notre premier podcast, on met à l'honneur une thématique qui nous passionne, les occupations temporaires. De plus en plus de Bruxellois engagés occupent des espaces vacants dans la ville afin d'organiser des initiatives pour les biens communs. Des projets comme l'usine, la serre ou l'allée du Cail inspirent les citoyens à apporter des réponses aux nombreux défis auxquels Bruxelles est confrontée. Dans cet épisode, nous en parlerons avec Nora Romet, chargée de communication de Comuna, et Arnaud Leonis, qui est un des coordinateurs de l'accroche à forêt. Bonjour Nora.
Bonjour.
Bonjour Arnaud.
Salut.
Merci d'avoir répondu positivement à cette invitation. Et donc pour entrer en matière, je voulais donc lancer une question, surtout pour les auditeurs qui ne sont pas très familiers avec la thématique de l'occupation temporaire. C'est quoi les différences entre une occupation conventionnée, une occupation temporaire et le squat ?
La différence principale entre les deux est que le squat, on rentre avant de demander, en général. Il y a une revendication politique forte et directe.
Okay.
Et dans l'occupation temporaire, il y a une négociation avec les propriétaires au préalable. Cela dit, il peut arriver que des squats deviennent des occupations temporaires, c'est-à-dire des gens rentrent de force, réquisitionnent un bâtiment vide. Et après, ils négocient avec le propriétaire et ils obtiennent un bail d'occupation temporaire. Même si, on va pas se mentir, c'est quand même, ce scénario-là est assez rare.
Nora, est-ce que, par exemple, les projets que vous gérez à Comuna rentrent dans le cadre d'occupation conventionnée?
Oui. En tout cas, tous les projets que moi, j'ai vécu, suivi avec Comuna, depuis que j'y suis, c'est sous forme d'occupation temporaire qu'on conventionne ces lieux.
Quelle est votre position par rapport à la loi anti-squat? Et ou pourquoi vous préférez, dans ce cas-là, faire des occupations conventionnées et non pas de squats? À quel moment Comuna ou à quel moment l'accroche ont décidé de passer à plutôt faire des occupations conventionnées?
Je pense que la raison pour laquelle Comuna s'inscrit plutôt dans la seconde, donc les occupations temporaires, c'est pour essayer de protéger au mieux ses occupants. Parce qu'en signant une convention, on peut négocier des délais de départ, etc. Et du coup, assurer qu'il soit impossible qu'on mette les gens qui occupent l'espace dehors du jour au lendemain.
Je rajouterais que c'est dû essentiellement à la répression. Il est très dur à l'heure actuelle de conserver un squat parce qu'il est très très vite expulsé. Et je sais que la Comuna, au tout début, une de leurs premières occupations, elle a été prise par la force, et puis elle a été négociée avec les propriétaires. Je dirais qu'il y a pas mal de gens qui tournent autour de l'accroche qui étaient aussi dans la même dynamique. Donc oui, en effet, l'occupation temporaire, à l'heure actuelle, ça permet d'avoir une sécurité. On sait que pendant un temps donné, on peut y rester. Donc forcément, ça peut permettre à des gens comme nous de pouvoir mettre en place des projets beaucoup plus sereinement. Après, il faut pas non plus se leurrer, parce qu'il y a d'autres projets comme les projets d'Entracte ou de Camelot, par exemple, qui là ne portent pas du tout la sécurité à ses occupants. Parce que il y a des projets où là c'est occupation temporaire entre guillemets, mais très 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 précaire. En une semaine, les personnes peuvent être dehors. C'est ce qui est arrivé à la petite île, quoi. Il y avait 5 personnes pour occuper 3000 mètres carrés, alors qu'on aurait pu en loger 50 ou 60. Et en une semaine, on leur a dit « dégagez, on a un projet ».
Ok. Maintenant, tu mentionnes quelque chose qui m'apparaît intéressant. Quelle est l'histoire, en fait, de vos ASBL? Quelle est l'histoire du Comuna? Arnaud, toi, tu viens de dire que Comuna a commencé d'abord avec des squats. C'était en quelle année et à quel moment vous avez passé à démarrer des occupations temporaires?
Communa, l'aventure Communa a commencé en 2013. Ouais. Et c'était 5 gars qui avaient envie de vivre différemment, étudiants à l'époque. Et la volonté, c'était de créer de la vie communautaire, un habitat groupé. Et du coup, pendant la recherche et la difficulté d'avoir accès à un bien locatif, ils sont petit à petit ils ont rencontré des personnes, ils ont rencontré découvert le 123. Et c'est comme ça que tout ce nouveau monde s'est ouvert à eux, on va dire. Et les premières tentatives, les premiers lieux, c'est aussi notamment à travers la pratique de squat que ces gars se sont aventurés pour très rapidement aussi, directement en fait, pour le premier lieu à XL, signer une convention d'occupation temporaire. Et avec les années, du coup, Communa a déménagé de commune en commune, d'espace à espace. Il y en a un, celui à XL qui était, que beaucoup de gens connaissent, ou à Statuaire, à Uccle. Disons jusqu'en 2017, Communa fonctionnait de cette manière-là. Mmh. Du coup, a principalement hébergé de la vie communautaire, toujours avec des activités ouvertes au quartier. Il y avait la table d'hôte, une épicerie gratuite et ce genre d'activités-là. Pour, en 2017, vivre un petit changement, dans le sens où, en plus de faire de l'habitat groupé, la volonté était d'élargir en fait, l'espace vacant à d'autres initiatives d'intérêt général. Du coup, des projets d'économie circulaire, d'économie sociale, des projets d'accompagnement social ou culturel, événementiel. Et à côté de ça, continuer aussi l'habitat groupé, évidemment, et également faciliter l'émergence d'initiatives d'insertion par le logement, de type Housing First.
Ok, et maintenant, le dernier projet que vous venez de démarrer, une des raisons pour lesquelles vous êtes ici maintenant, c'est le Tri-Postal.
Alors, le Tri-Postal, déjà pour le situer dans la ville, c'est cet énorme bâtiment qui est à côté de la gare du Midi, au Brick Orange.
Ouais.
Et qui, personnellement, que je connaissais principalement grâce aux énormes portes de garage qui sont graffées depuis 20 ans.
Ouais.
Enfin, depuis que moi je suis à Bruxelles en tout cas. Et le lieu est vide depuis 1998, en fait, quand ce n'était plus la Poste mais la SNCB qui est devenue propriétaire. Et au bout de 20 ans de vacances, le comité de quartier du quartier Midi s'est mobilisé pour lancer une pétition pour permettre l'occupation temporaire de ce bien. Du coup, cette pétition a rassemblé plus de 7500 signatures. Et rapidement, le comité s'est aussi mis en contact avec nous pour qu'on démarche auprès du propriétaire et aussi de la commune de Saint-Gilles pour permettre l'occupation temporaire de ces 8000 m2. Je pense que le bâtiment il compte en tout. Après la pétition, on a pris, plusieurs mois pour lancer les discussions avec la commune et la SNCB, suite à quoi, eux, ils ont lancé un appel à projet pour la gestion temporaire du lieu, auquel Communa a répondu et finalement a eu la gestion du lieu. Et c'est à partir de là que ça a été assez vite, parce que on a pris, 4 mois pour faire les travaux du lieu. Qui, il faut quand même le dire, était dans un état déplorable. Il n'y avait pas d'électricité, pas de toilette et rien. Et c'est vraiment... il faut aussi mentionner que c'est uniquement le rez-de-chaussée qu'on occupe. Donc, les étages, ils sont toujours vacants. Donc, il y a toujours plein d'espace pour faire d'autres choses aussi. Et ici, le rez-de-chaussée est devenu, ou en train de devenir encore, soyons francs. D'une part, il y a tout ce qui est accueil social. Et là, c'est la coalition des maraudeurs et maraudeuses qui vont avoir un point de chute pour accueillir et rencontrer les personnes sans abri du quartier et les réorienter vers d'autres services, leur proposer des services de soins, etc. D'autre part, c'est un axe plutôt makers, comme on appelle ça aujourd'hui. Mmh. Et du coup, c'est Superlab qui va faire un atelier de machinerie énorme et très impressionnante partagée pour faire de la production, tout ce qu'on fait dans les Fab Labs et que je ne comprends pas très bien. Et puis à côté de ça, le troisième axe, c'est plutôt un axe événementiel et culturel, avec notamment Hybrid Studio, eux qui font des ateliers de danse et de mouvement. Il y a Zine TV qui va faire un cinéma de quartier, donc permettre la projection de films qu'on voit moins sur les grands écrans. Et voilà, donc c'est principalement ces trois axes-là, avec une dizaine de porteurs et porteuses de projets fixes, mais plusieurs dizaines de projets qui viendront utiliser l'espace de manière ponctuelle. Et le Tri-Postal, on l'a inauguré le 22 novembre pour célébrer ce nouveau lieu, disons. Néanmoins, les activités vont commencer à se mettre en route petit à petit.
Ouais.
Mais c'est là que c'est peut-être le moment de faire le lien avec le crowdfunding.
c'est que à ce jour, il nous manque encore le chauffage. Ouais. Comme on est au mois de décembre, ça commence à devenir un peu chaud d'utiliser un espace sans chauffage.
Un peu froid, même.
Un peu froid, ouais. Et du coup, je pense que le lieu sera véritablement utilisé, en fait, et en route, une fois que ce chauffage sera installé, donc trouvé, financé.
Oui.
Arnaud, pour l'accroche, bon, raconte-nous d'abord un peu de l'accroche, et après, tu peux nous dire aussi pourquoi vous avez lancé la campagne de crowdfunding.
Oui, bien sûr. La SBL de l'accroche, son projet principal, c'était vraiment créer un centre social. Un centre social un peu à l'italienne, un centre social de jour, familial, dans lequel un maximum de personnes pourraient se réapproprier l'espace. Donc, ici, nous, on a négocié pendant quand même 1 an et demi avec les propriétaires avant de pouvoir rentrer. On a 2000 mètres carrés situés au 4e étage de l'ancienne usine Diamond Board, qui était une usine de diamants industriels. Et c'est vide depuis, ça fait 12 ans que c'est vide. Nous, on est situé vraiment en 4e étage. On a décidé ensemble de couper l'espace en 5, de faire un espace sport et polyvalent dans lequel il s'y passe plein de choses. Il y a des gens qui font du football tennis. Mm-hmm. C'est des jeunes de quartier qui nous ont demandé pour faire ça. Il y a cours de danse le dimanche, danse contemporaine. Il y a des cours de boxe thaï. Bientôt, il y aura des cours de jujutsu aussi. Et alors, dans cette salle, on y fait aussi des projections, de l'acro-gym, de l'acro-yoga, du yoga et de la méditation. Ensuite, il y a l'espace artistique, dans lequel il y a quelques ateliers privés pour les personnes, plus une possibilité, c'est en construction, de créer un espace partagé dans lequel il pourrait y avoir des grands ateliers artistiques collectifs. Ensuite, on arrive au 3e espace, plus l'espace pour les événements publics, où on a construit, c'est toujours en construction, mais ça a déjà bien pris forme, un grand, énorme bateau pirate, qui est fait bar à l'avant et cuisine à l'arrière. Mmh. Voilà, ça fait partie des trucs qui pourront être financés aussi par le crowdfunding, c'est la cuisine.
Et le bateau pirate.
Le bateau, lui, est déjà quasi fini.
Ah, okay.
Et donc, c'est là qu'on fait plutôt nos événements. Mmh. C'est une grande salle qui peut accueillir 200 personnes facilement, quoi. Et alors, il y a le quatrième espace qui sert d'endroit de stockage à l'heure actuelle, mais qui, à terme, devrait être une salle informatique, une salle radio, ainsi qu'un petit labo photo. Et enfin, le 5e espace dans lequel on se trouve à l'heure actuelle, qui est l'espace construction. Là, on est dans mon atelier. C'est l'atelier de serrerie dans lequel je donne des cours de crochetage tous les lundis. Et en face, il y aura l'atelier soudure qui va ouvrir en janvier. Il y a un pote qui a son atelier de vitraux qui va aussi donner la possibilité à des gens d'apprendre... métier de vitrailliste. Et il y a des menuisiers qui se sont installés également.
Ok. C'est une offre assez diverse, alors.
Oui.
Et je pense que ça touche vraiment différents publics, mais surtout pour la première salle, la salle de sport. Bon, vous faites ça donc en partenariat avec des maisons de jeunes, ou comment est-ce que les personnes sont au courant des activités?
On est en contact avec des maisons de jeunes, mais ça ne s'est pas encore finalisé. Mm. On doit encore justement s'améliorer un peu en construction avant de faire venir par exemple des plus jeunes à certaines activités sportives. Enfin, il y a une volonté de faire des garderies à terme et de faire des activités pour enfants, quoi. Mmh. On tracte régulièrement dans le quartier pour essayer de montrer nos activités. Puis sinon, il y a évidemment la promo via Facebook, Internet, mmh, et tout ça. Par exemple, le cours de danse, c'était une danseuse professionnelle qui voulait donner des cours prix libre pour qui veut. Bah là, il y a une promotion qui est faite, une communication qui est faite, et puis les gens viennent. Un autre projet qu'on a pour l'instant, c'est le soutien scolaire. Ouais. Ça, par exemple, on essaye de vraiment faire plus un travail de quartier, quoi. Ouais.
Et donc, vous avez lancé une campagne de financement participatif.
Ouais, tout simplement, un peu pareil que Tripostale, je pense, c'est mettre le chauffage. À l'heure actuelle, on a acheté un canon à chaleur, mais c'est pas suffisant. Tous les matériaux que vous voyez ici ont été entièrement récupérés, mis à part les vis, les rondelles et le matos d'électricité qui doit être aux normes et donc on ne peut pas récupérer. Mais déjà rien que ça, en fait, acheter les outils, ça a coûté 5000 euros, qui équivaut un peu à la somme qui est demandée à l'heure actuelle au crowdfunding.
Je le vois aussi, par exemple, à la station de Revers à Saint-Josse, c'était plutôt une compagnie d'artistes qui voulait proposer une offre culturelle, mais c'était à prix libre. Je ne suis pas à l'accroche, c'est aussi ce modèle-là que vous proposez, c'est du prix libre.
Oui, c'est quasi obligé. Ouais. Ça fait partie. On n'a pas encore rédigé notre charte. Et nous, les gens peuvent créer un événement chez nous. Ils peuvent en faire un. À une seule condition, c'est qu'il soit prix libre, pas prix conseillé non plus.
Ok.
Ce qui crée un peu un débat parfois, parce qu'il y a une partie qui veut quand même qu'il y ait un prix conseillé pour responsabiliser les gens. Et il y a une autre partie qui dit oui, mais non, en fait, c'est juste la honte quand c'est prix conseillé 5 € et que tu mets que 2 € parce que t'as rien, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est en débat, mais clairement prix libre. Après, par exemple, la tuile d'écrochetage que je donne est à 2 € parce qu'il y a un prix coûtant. Quand ça demande de la matière première, si par exemple on fait à un moment donné un atelier comment faire du savon, il faut bien payer le matériel. Et donc, du coup, là, c'est plutôt prix coûtant.
À Comuna, à vos différents endroits, c'est un peu la même pratique
c'est, bah, les projets qu'on héberge, eux, ils fonctionnent presque tous selon une politique de prix libre et ou alors gratuit, selon où on est, enfin, ce que l'activité, où on est, l'ASBL, etc. Et nous, Comuna, on fonctionne aussi avec un prix libre, disons, avec les projets, enfin, les occupants de nos espaces. Je fais prix libre comme ça, parce qu'en effet, il s'agit en fait de couvrir les coûts de l'occupation. Et du coup, c'est plutôt un système solidaire entre occupants, je dirais. Et que selon les moyens de ces occupants, bah, y en a qui vont contribuer plus et d'autres qui vont contribuer moins, de sorte à permettre à ce que ceux qui ont moins peuvent également occuper un espace.
Oui.
Et ce sont ceux qui ont plus qui aident à ces personnes d'avoir accès à l'espace. Et qu'ensemble, la communauté d'occupants... permettre le financement du lieu avec évidemment quand on peut avoir des aides du propriétaire comme ici par exemple pour le Tripostale où la SNCB finance également une partie de l'occupation du lieu et comme il a justement des marches pour trouver des ressources financières autres
alternatives ça c'est quelque chose, c'est un aspect aussi intéressant de cette convention que parfois il y a une très chouette collaboration entre entre les propriétaires et les occupants du lieu. Bon, je le vois aussi, je mentionne à l'Éducail, c'est Bruxelles Environnement qui est le propriétaire de l'endroit et je vois les personnes de Bruxelles Environnement hyper engagées et qui tiennent compte des activités qui sont organisées à l'Éducail et que je pense que et seront prises en compte pour le futur aménagement du parc qui sera construit lorsque l'Éducail sera détruit.
Ils payent même des gens pour gérer des lieux.
Ouais.
C'est l'environnement.
Ouais.
Finance même.
Ouais.
Je pense qu'au niveau des propriétaires publics, il y a la question des délais en fait qui favorise l'émergence d'occupations temporaires.
Ouais.
Parce que les délais administratifs et bureaucratiques belges, ça met un certain temps, ce qui permet largement en fait l'émergence d'occupations temporaires. Là où les propriétaires privés, eux, ils vont plutôt s'inscrire dans une logique de rentabilité de leurs espaces. Et du coup, les procédures sont beaucoup plus rapides.
Plus rapide dans le privé, sauf quand ils veulent faire de la spéculation et attendre
quelques
années. À ce moment-là, est-ce qu'on a envie de travailler?
Oui, c'est ça.
Avec ces propriétaires.
Il faut un peu aussi savoir à qui on travaille.
C'est clair.
Avant les élections, il y a eu une très très chouette campagne de communication pour sensibiliser à l'occupation temporaire à finalité sociale. Et cette campagne s'appelait « S'invite les EQPEC ». Il me semble que Comuna était un des responsables de cette campagne. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus sur les objectifs de cette campagne ?
Oui. « S'invite les EQPEC » a voulu sensibiliser aux 6,5 millions de mètres carrés qui sont vides à Bruxelles.
Ouais.
D'où, en fait, on a créé cette 20e commune qui se compose des espaces vacants de la ville. D'où aussi son nom, « S'invite les EQPEC », un nom typiquement bruxellois. Et à côté de la volonté de sensibilité à tous ces espaces vacants, enfin c'est absurde quand on considère toute cette surface qui est vide à côté des besoins de la ville, ne serait-ce qu'au niveau du logement, les personnes qui sont à la rue, les personnes qui attendent un logement social, et à côté de ça, toutes les initiatives citoyennes, enfin genre d'économie circulaire ou associative, qui sont à la recherche d'espaces pour déployer leurs projets. Du coup, on a voulu attirer l'attention sur ce paradoxe-là, mais aussi sur le fait que ces deux dernières années, il y a beaucoup d'espaces vides qui ont été confiés à des entreprises privées. Et là où l'histoire des bâtiments vides à Moselle, jusqu'ici, se concentrait principalement en fait sur des projets d'intérêt général, que ce soit au travers de la pratique du squat ou à travers l'occupation temporaire, ces deux logiques-là s'engagent à ce que les espaces vides servent pour exercer le droit à la ville, du coup s'approprier notre ville et la considérer de la manière dont les citoyens le veulent, ou alors le droit au logement en facilitant en fait l'accès au logement à tous, chose qui n'est aujourd'hui plus possible à Bruxelles. Il nous a semblé important, enfin je dis nous, mais nous c'est Comuna, mais il y avait aussi tout Stanler à la campagne, il y avait le BRAD, il y avait la Fébule, donc c'est plusieurs acteurs de l'occupation temporaire ou ceux qui œuvrent pour le droit à la ville ou au logement, qui ont considéré que c'était important que s'il y a institutionnalisation de l'occupation temporaire, bah, qu'à ce moment-là, elle soit à finalité sociale et que la mise en concurrence d'entreprises privées et d'associations ne fasse pas en sorte que en fait il n'y a plus qu'un seul des acteurs qui soit présent dans les espaces vides, parce que bah c'est souvent cette logique là que c'est ceux qui ont le plus de moyens qui parviennent à leur fin. Et du coup Saint-Henri de l'Épée qui a voulu protéger en fait les espaces vides d'une invasion lucrative de ces espaces, si je puis dire ainsi. Ouais.
J'étais perplexe par ces 6 millions de mètres carrés qui existent à Bruxelles et aussi cette comparaison de c'est la moitié d'Ixelles.
C'est la taille d'Ixelles.
C'est la taille d'Ixelles.
Ouais.
Donc c'est la taille d'Ixelles et donc c'est comme une 20e commune en effet qui existe à Bruxelles. Et ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a tellement de projets citoyens qui pourraient occuper et qui sont dans le besoin d'avoir un espace. Ne serait-ce que pour des projets de seniors ou des projets des parents qui veulent faire du homeschooling, avoir les enfants et proposer des activités. Les possibilités sont vraiment infinies et c'est vraiment dommage que ces espaces continuent à être inoccupés.
Mais juste pour rebondir à ce que tu dis, effectivement, moi, personnellement, en tout cas, pendant qu'on donnait un contour physique à la commune, bah, personnellement, j'étais assez excitée en fait de donner cette forme-là à ces millions de mètres carrés vides, parce qu'en fait, ça offre plein de possibles. Et moi, ça m'excitait à fond de m'imaginer de créer une ville dans la ville, où en fait, ce sont des valeurs complètement autres que celles qui sont actuellement prédominantes à Bruxelles.
Mais moi, je trouve en effet que, bon, vous êtes quelque part, vous faites partie de cette 20e commune, et que rencontrer ou aller connaître un peu les espaces de Tripostale ou de La Croche, c'est un peu comme connaître cet univers, cette petite ville utopique où des autres formes d'organisation et d'offres sont possibles, avec le prix libre, avec une autre forme de prise de décision.
On n'est pas encore ce petit village, quoi. Je pense qu'il y a une carte ici accrochée avec genre 25 occupations temporaires. Je pense que si on est gentil, on peut dire qu'on a peut-être 100 au total en comptant tout, Fébule, Tousten, Comuna, Accroche, enfin plein d'autres ASBL. C'est pour ça qu'au même moment, avoir sorti la loi anti-squat, c'était vraiment ridicule, quoi.
Yeah. Donc,
je pense qu'en fait, il y a notre façon de faire là, à l'heure actuelle, qu'on a à la Comuna, qui sont à la Comuna, qui a dans des occupations comme la nôtre et tout. Qui est une bonne façon de faire, mais qu'elle sera jamais, jamais suffisante.
Non.
Parce que ça met beaucoup trop de temps, quoi. Et nous, on a aussi envie on aimerait bien qu'à un moment donné, quand on se développe et tout, des propriétaires nous fassent confiance pour qu'on gère des bâtiments dans lesquels il pourrait aussi y avoir du logement.
Ouais.
Parce qu'on a des demandes, mais tout le temps. Et la vérité, c'est que toutes les occupations sont pleines, bouchées, avec quasi des listes d'attente. Enfin, il y avait qu'à voir, par exemple, les listes d'attente du 123 à un moment donné,
ouais.
Et qu'ils auront quand même fermé et tout.
Le 123, c'est juste pour...
Le 123, typiquement, c'était pareil aussi. C'était d'abord des jeunes qui voulaient revendiquer il y a 10 ans ou 12 ans, je sais plus, une dizaine d'années en tout cas, qui ont occupé le bâtiment du 123 rue Royale, dans lequel il y avait 80 ou 100 chambres, donc énormément d'habitants dedans, et ça a duré 10 ans, et maintenant ça a été fermé malheureusement. Ils sont constitués en ASBL et ils ont essayé d'ouvrir d'autres bâtiments, dont un à Porte de Halle. Ils se sont fait éjecter. Ce bâtiment est toujours vide. Il y avait plein de chambres. Donc même pour des ASBL réputés, on va dire qu'on fait leurs preuves, etc., machin, comme 123 et tout, ça reste très très difficile. Pour des petites ASBL comme nous, c'est le parcours du combattant. Et en fait, c'est ça le problème en fait, c'est que Si j'étais un gouvernement qui se souciait justement des 5000 SDF qui sont à Bruxelles et qui font qu'augmenter, là je pense que ça a augmenté de 30% en 3 ans, c'est une honte. Si on était des pouvoirs politiques conscients de ça, non pas véreux, non pas capitalistes comme c'est l'heure actuelle, on tolérerait le squat, on faciliterait au même moment les occupations temporaires.
Bah, et à ça, moi, j'aimerais ajouter que l'occupation temporaire ou le squat, c'est aussi des solutions de logement qui sont certes immédiates, présentes, disponibles, disons, mais que pour moi, une réponse politique ambitieuse ou courageuse, ce serait de faire des changements au niveau structurel, c'est-à-dire créer du logement social. Aujourd'hui, je pense que c'est 6% du logement à Bruxelles qui est social, là où je ne sais pas combien de pourcents vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc oui, l'occupation temporaire et le squat, ce sont des solutions, disons, enfin immédiates, en tout cas temporaires. À la crise du logement, mais il y a de vrais changements structurels qui doivent être entrepris, que ce soit au niveau du logement social ou en soutenant des initiatives comme le Community Land Trust, où là, la volonté, c'est de proposer des solutions à long terme et de créer du logement accessible.
Il faut vraiment aussi un engagement du gouvernement par rapport à cette question de crise des logements et de toutes les SDF.
Sauf qu'il nous mentent et qu'il y a une énorme spéculation immobilière qui est faite. Des expériences de squatteurs, par exemple, qui ont occupé certaines maisons à l'époque des logements sociaux. Mmh. Par exemple, le quartier de la Roue, qui était occupé par Utopirate à un moment donné, etc. Mmh. C'est un quartier où il y avait 86 maisons vides, 50 qui étaient murées. Par les logements sociaux, les foyers eux-mêmes. Des personnes ont occupé dans ces maisons, il y avait le chauffage, l'électricité, il y avait tout. Tout était quasi... Enfin, ils n'étaient pas aux normes, aux nouvelles normes de la région, etc. Et c'était quoi les normes qu'il y avait? C'était la chambre doit faire au minimum maintenant 9 mètres carrés et elle en faisait 8 mètres carrés. Éric Thomas, bourgmestre ou ancien bourgmestre, je ne suis pas mis à jour, d'Anderlecht, l'avait dit lors d'une action du collectif Utopirate que ça coûtait 250 000 euros pour rénover juste là la petite maison qui avait été occupée. C'est honteux. Les politiciens mettent eux-mêmes des règles qui font qu'ils ne peuvent pas répondre avec même le budget qu'ils ont, le budget d'État et tout, à la demande. On pourrait changer ces normes et
pouvoir offrir...
Et je répète, tolérer que des gens occupent des maisons vides, qui sont vides depuis parfois 8 ans, 7 ans, 10 ans, et qui ont juste besoin en fait d'un toit pour pas crever, en fait, tout simplement. À une heure, là, on est en plein hiver, en plein mois de décembre. C'est l'hécatombe dans Bruxelles, c'est une honte, quoi.
Je suis complètement d'accord. Je pense qu'ici, on est tous d'accord. Nora, quelle était la réponse du public, des pouvoirs publics après la...
Je pense que d'un point de vue politique, c'est un peu trop tôt pour le dire. Je pense que la campagne a été reçue, l'occupation temporaire a été inscrite dans les accords du gouvernement, mais pour véritablement en observer les retombées d'un point de vue de la ville, je pense que c'est trop tôt pour le dire. Puis au niveau des citoyens, je pense que ça a eu son impact. Des amis m'ont raconté qu'au dîner de famille la veille, la grand-mère a dit « Ah, il paraît qu'il y a une 20e commune à Bruxelles.
» c'est génial.
Je pense que les gens ont pris conscience de cette 20e commune. Et j'espère qu'ils ont aussi pris conscience de l'importance de les investir, d'initiatives qui ont une retombée positive pour la ville. Si les politiques ne sont pas assez courageux pour formuler des réponses qui nous conviennent, je pense que c'est important que les citoyens se mobilisent et s'engagent et utilise en fait les ressources disponibles. Je pense qu'il est plus temps de se plaindre de comment fonctionne notre ville, notre société de manière générale, mais plutôt de passer à l'action.
Il y a aussi un autre aspect de l'occupation temporaire qui a été aussi souligné dans la campagne, qui me semble intéressante, c'est comment ces occupations temporaires peuvent aussi aider aux aménagements futurs. C'est par exemple, je donne l'exemple de l'allée
ouais.
du CAI.
Ouais.
Donc, l'allée du CAI, maintenant, c'est un espace socioculturel
ouais.
Qui est juste en face de Tour et Taxi et que, maintenant a été utilisé comme un skate, un endroit pour faire du skate, un endroit pour faire plein de différentes activités. Dans le futur, ça va devenir un parc. Mais ce parc-là va aussi reprendre pas mal de projets qui ont débuté à l'aide du CAI. Je pense que c'est quelque chose qui fait partie aussi de, pas des objectifs de l'occupation temporaire, mais quelque part, cette occupation peut aussi aider ou contribuer à proposer des projets qui peuvent aussi définir le futur urbain de cette zone qui est occupée.
Mais je pense justement que l'exemple que tu prends avec l'allée du CAI, il est assez rarissime.
Oui.
Parce qu'en effet, c'est ça, il va y avoir un grand parc dans lequel ils vont pouvoir inscrire un projet ou l'autre, comme avec leur projet au Carré de Moscou, ils se sont ils avaient une occupation à côté, et puis ils ont refait vivre un peu le Carré de Moscou en faisant de l'activité, en faisant des aménagements urbains et tout. Nous, on s'est pas encore posé cette question-ci parce que le bâtiment qu'on occupe va être de futurs logements sociaux. Donc, si par après, on peut être en discussion avec les propriétaires pour en effet proposer des activités, s'ils nous laissaient un espace ou quoi dans le bâtiment, pour faire des activités après que les travaux soient finis, mais alors là on parle dans beaucoup d'années, je pense.
Idéalement, je pense que l'occupation temporaire pourrait être un vrai outil urbanistique si en fait on fait appel à lui de manière suffisamment, enfin assez tôt dans le processus en fait, pas une fois que l'usage futur est déjà défini, comme par exemple ici,
oui, à fond.
Où ça peut faire sens, mais en fait ce serait d'utiliser l'occupation temporaire pour que l'architecture qui suit s'inspire des usages que les citoyens auraient définis par eux-mêmes. Et c'est à ce moment-là que l'occupation temporaire devient vraiment intéressante, selon moi. D'où de notre expérience, à la SERF, qui est un de nos lieux à Ixelles, on parle de cette dynamique qui s'est instaurée dans la rue Gris, là, depuis 2017, et de la volonté de la commune, qui sont propriétaires des lieux, en fait, de garder cette dynamique, parce qu'on s'est bien rendu compte que ça faisait du bien à la rue, ça faisait du bien aux voisins d'avoir un lieu de rencontre et d'activité, ou notre lieu à Anderlecht aussi. C'est un autre exemple, là, c'est le Community Land Trust qui est propriétaire. Et bon, là, on est partenaire, enfin, on s'entend sur ce qu'on recherche. Et là, il y avait vraiment, en fait, la volonté d'expérimenter l'usage transitoire, pour voir quelle dynamique fonctionne, de quoi le quartier a envie, pour ensuite dessiner le projet futur.
Oui.
Mais bon, là, c'est vrai qu'on est des acteurs
vous entendez bien, dans la même longueur d'onde. Ouais. Et est-ce que vous avez aussi des exemples de projets qui ont été hébergés chez vous et que maintenant ont démarré ou ont eu une espèce d'histoire de succès?
Fais le toi-même, c'est un de nos premiers projets hébergés à la Fissure en 2017. Et c'est drôle parce que là on se retrouve dans le bâtiment à Signes pour lequel elles avaient aussi lancé une campagne de crowdfunding. Et puis une autre histoire que moi j'aime toujours bien, c'est la SVL Units qui est dans tous nos bâtiments. Et c'est Zazou qui nous a aussi rejoint au niveau de à Saint-Gilles pour la buissonnière. Et depuis lors, elle a fait des activités à la serre. Maintenant, elle s'inscrit à Signes et aussi au Tripostal. Et là, c'est aussi un projet... UNIT, c'est l'accompagnement social de personnes sans abri vers le relogement à travers le lien social et l'implication citoyenne. Une ASBL aussi, pour qui l'occupation temporaire a vraiment été un tremplin pour se lancer.
Avant-dernière question, c'est aussi l'autogestion ici. Quels sont les outils que vous utilisez aussi pour prendre des décisions et, parce que vous êtes quand même un collectif de bénévoles. Est-ce que vous faites appel à certaines pratiques pour
prendre... Nous, dans l'équipe Communa, on a une gouvernance qui est complètement partagée et à laquelle on bricole bah, tout le temps en fait, ouais. Depuis qu'on a commencé. Bah, quand moi j'ai rejoint le projet, ils étaient 3, on est vite 5, aujourd'hui on est 10, 11, ouais, ouais. Et puis toujours des bénévoles, des services citoyens, etc., qui gravitent autour. Et bah, en fait, c'est un travail, une gouvernance, j'ai l'impression que c'est un travail, en tout cas partagé, qui se fait vraiment au quotidien, parce que selon la personne qui s'investit dans le projet, elle va attirer l'attention sur certains points, sur d'autres manières de faire, sur des idées rigotées à gauche, à droite. Mais oui, c'est sûr qu'on fonctionne de manière complètement horizontale, et dans nos lieux également, on essaie de mettre en place des lieux autogérés, que ce soit la communauté d'occupants qui décide de comment on utilise l'espace, ce qui est fait, etc.
Ok. Et ici, à l'accroche ?
Ouais, bah, nous, c'est assez fluctuant. À un moment donné, on faisait des réunions hebdomadaires, toutes les semaines. Mm-hmm. C'était assez intensif pour mettre un peu en place le projet, se disputer sur plein de trucs. Voilà, je pense comme tout début, en fait, d'ASBL et tout, il y a un petit peu des luttes qui s'opèrent ouais. En interne pour que les ASBL prennent une direction plutôt qu'une autre, etc. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup de discussions là-dedans. Et puis après, il y a des rôles qui sont donnés. Des gens prennent des initiatives. Des gens sont mandatés à un moment donné pour remplir une mission pour l'ASBL. Et puis après, s'ils l'ont mis à bien, tant mieux. S'ils ne l'ont pas fait, ben, d'autres s'en chargent.
Dernier mot, comment ça se passe pour vos campagnes de crowdfunding? Je vois par exemple que l'accroche, vous êtes à 41%, ça ouais. Avance très bien. Encore 41 jours pour soutenir. Et puis Nora, c'est bon, le tripostal, 47%, c'est quand même une grande somme, c'est 30 000 euros ce que vous cherchez. Encore un mois et 5 jours pour la financer, et l'accroche, c'est 5 000 euros.
Oui, 5 000, mais comme dit dans le GoFundMe, si on pouvait avoir 10 000, ce serait vraiment parfait, vu tous les besoins qu'on a. On a juste essayé de tenir un panel de 5 000 pour être sûr de... Enfin, on espère. on espère y arriver à la fin. Ouais. Voilà, on en a vraiment besoin pour continuer justement à ce que cet espace reste pris libre. Pour plein de gens, pour qu'il puisse y avoir du chauffage, puisque les gens du yoga n'en peuvent plus, voilà, ah, ce genre de choses.
et pour le tripostal, ça se passe comment? Comment vous vivez la campagne?
Bah bien, je dirais. Et on croise aussi les doigts qu'on y arrive, et j'ai bon espoir. Que les gens, enfin, quand on voit le nombre de personnes qui étaient là à l'ouverture et qui étaient curieux de découvrir le lieu,
c'était incroyable,
c'était vraiment impressionnant, et j'espère que toutes ces personnes, en fait, s'ils ont envie de revenir à une autre soirée, et ben, qui contribuent à la campagne de crowdfunding.
Une des contreparties qui vous semble intéressante, qui pourrait être intéressante pour l'auditoire?
En fait, la plupart de nos contreparties, pour être honnête, sont déjà des services qu'on offre aux gens gratuitement. Après, dès le départ, à partir de 20 euros, je pense, ou 25, on peut avoir des boissons gratuites à la soirée d'inauguration, d'ouverture après le gros funding et tout. Et puis, il y a la possibilité sur des plus hauts panels d'organiser des soirées chez nous, quoi. Okay. Enfin, des soirées, des événements, des ateliers, etc. Et il y a aussi panel de 50 euros, je pense, des petites pochettes surprises faites par des artistes de notre SV.
Cool, bien.
Et moi, si j'étais contributrice au tripostal, je pense que je signerais pour le couscous. Parce que j'adore le couscous. Et que tous les couscous qui ont lieu dans les lieux communaux, c'est trop bien. Enfin, ça réchauffe le cœur de se retrouver à manger un couscous et à ressentir la bonne vibe. Et après, si... j'étais riche, bah, je mettrais 2500 euros et je discuterais avec Comina des contreparties possibles.
Ok, merci beaucoup Nora et Arnaud d'avoir venu. Nora du Tripostal et Arnaud de l'Accroche. On vous invite à regarder, à visiter un peu, connaître un peu plus sur les projets sur notre site www.growfunding.be/tripostal ou/l'accroche.
Merci pour tout. C'était notre premier épisode de podcast crowdfunding. Merci beaucoup à Benjamin de Benvox pour tout son soutien technique et moral et technique. Merci beaucoup.
Ceci, c'était Growfunding Podcast. Growfunding est une ASBL bilingue qui accompagne des projets citoyens qui répondent aux défis urbains locaux. On met les gens en relation avec des citoyens, avec des organisations, des entreprises et des gouvernements. Si vous avez envie de savoir plus ou vous êtes intéressé par notre approche, rendez-vous sur notre site www.growfunding.be ou écrivez-nous à info@growfunding.be. Merci et à très bientôt.